Chapitre 2. Cette année-ci, la récolte de blé et d'avoine avait été abondante. Les granges pleines attendaient les batteurs. Une neige précoce étant venue interrompre tous les travaux du dehors, Isaac Renaud envoya un message au père Félix pour le prier d'avoir à préparer son fléau. En réalité, le fermier et ses trois fils eussent suffi à cette besogne qui se fait un moment perdu. Mais sans les joyeuses histoires du vieux journalier, les longues veillées de novembre auraient paru bien mornes. On est alors encore mal accoutumé à l'hiver, qui durera 6 mois, 7 peut-être. On souffre d'être emprisonné après la belle saison du travail en plein air. On sent comme une nostalgie indéfinissable qui vous fait errer de la grange à l'écurie, de l'écurie à la cuisine. On n'a pas le cœur à sa besogne sédentaire et l'on surveille le ciel gris pour y guetter toutes les éclaircies. En ce moment, la bonne humeur du père Félix et la gaieté de Cécile étaient tout particulièrement agréables à Isaac Renaud, qui ne riait guère, mais aimait à voir rire. « Justine, dit-il un soir à sa femme, il est temps que le grand-père arrive avec sa joyeuse. Nos garçons sont tous détractés par cette neige, ils avaient joblé de faire je ne sais combien de billes au haut de la forêt, mais le mauvais temps leur casse les bras et ils ne font que se promener comme des ours en cage. « Ainsi, vous allez commencer votre battage ?» gémit Madame Renaud. « Ah, ma pauvre tête ! Tous ces coups de flotte, ça me répond dans les tempes comme un marteau, surtout quand j'ai ma névralgie. Si je m'écoutais, je me sauverais chez les cousines Dumont, où il n'y a pas de battage, et je vous laisserai Cécile pour le fricot. »« Qui t'en empêche, ma femme ? Il est juste que de temps en temps, tu aies aussi tes vacances. » « Y penses-tu, cette fillette seule ici ? Isaac, je t'aurais cru plus déciant. » Tout à coup, on entendit dans la cour le chien sauter hors de sa niche avec un grand bruit de chaîne, aboyer furieusement, puis s'apaiser au son d'une voix que le fermier reconnut aussitôt. « Le grand-père est joyeuse, » fit-il en allant à la rencontre. Madame Renaud était frileuse, comme presque toutes les personnes plaintives. De plus, elle était sujette à des névralgies que la plus légère contrariété aggravait d'une façon alarmante. En hiver, surtout, elle s'enveloppait la tête de manière à donner à ce couronnement de sa personne des dimensions tout à fait extraordinaires. Un foulard blanc, noué sur le menton, était la base de son système de défense contre les courants d'air. Par-dessus, elle portait un bonnet de taffetas noir, garnie d'une grosse ruche ronde qui lui encadrait le visage. Puis, un de ces demi-fichus que les caprices de la mode appellent tantôt fanchon et tantôt frileuse. Enfin, quand le temps était à la neige ou l'humeur à l'orage et qu'un vent de névralgie soufflait sur la maison, un capuchon de soie ouaté englobait tout le reste, objet redouté qui faisait dire à la servante « Miséricorde, voilà le capot des mauvaises lunes !» Or, ce soir-là, Madame Renaud avait mis son capuchon. « Quelle idée d'arriver si tard » murmura-t-elle. « Préparer 2 lits à l'heure qu'il est, trouver des draps, avec ma névralgie que je sens revenir plus fort que jamais. » « Serviteur, Madame Justine, toujours florissante comme un rosier de chaque mois. Bon, bon, la santé, c'est l'essentiel. » Le père Félix tenait sur le seuil de la porte sa vieille figure ridée et souriante, éclairé en plein par la lueur rougeâtre de la petite lampe que tenait le fermier. Madame Justine, qui avait été belle autrefois et aurait pu l'être encore sans son appareil antinévralgique, ne fut pas insensible aux compliments. « Entrez voir, dit-elle, où est la petite ?»« Bonsoir, Madame Renaud, fit la voix claire de joyeuse. Et la jeune fille s'avança sur le seuil. « C'est toi qui es une rose de chaque mois !» s'écria la fermière. « Est-elle jolie, la petite coquine ?» Joyeuse avait rejeté en arrière son capuchon de laine bleue. Ses yeux bruns, sa bouche et ses fossettes souriaient à l'envi. Sur ses cheveux blonds et légers brillaient quelques flocons de neige, d'autres, déjà fondus en petites gouttelettes, tremblaient comme des perles au bout d'un mince fil d'or. Elle était si mignonne et si gentille, appuyant sa joue ronde contre le bras de son grand-père, que Madame Renaud ne put s'empêcher de soupirer. Si Dieu nous avait donné une fillette comme celle-là, pensa-t-elle, Isaac et moi, nous nous croirions plus jeunes. Mais ce n'est pas tout que d'être jolie, reprit-elle d'un ton sévère. Il faut encore être bonne fille et soigner son grand-père. À quoi songes-tu de le faire voyager si tard et par de tels chemins ?
Nous sommes partis ce matin, répondit-elle en riant, mais nous avons du parentage tout le long de la route et il a fallu cousiner partout. Chacun aime tant mon grand-père.
Ça se comprend, fit Madame Justine, toujours plus sévère. Allons, ôte ton capot et viens donner un coup de brosse à ces folichons de cheveux qui frisent toujours. Félix, n'ayez crainte, on va vous faire souper. La fermière introduisit Cécile dans sa propre chambre et, de ses mains maternelles, lui enleva son capuchon, lissa elle-même les beaux cheveux cendrés qu'elle lui reprochait souvent de ne pas soigner assez, fit déchausser la jeune fille et s'assura que ses bas n'étaient pas humides.
« Vous avez votre névralgie aujourd'hui, Madame Renaud. J'en suis bien fâchée, » dit Cécile en remarquant la coiffe de mauvais augure.
« Pourquoi m'y fais-tu repenser, petite nigaude ? Je l'avais oublié et tu sais bien que tous ces mots-là, les nerfs et autres misères, on ne les sent que quand on y songe. »«
Toute la famille va bien, » poursuivit Cécile en enfilant ses petits pieds dans des pantoufles de maroquin d'une héroïque grandeur que lui prêtait la fermière.
« Monsieur Jacques, Monsieur Victor, ils se sont bien portés depuis les fenaisons dernières. »«
Vas-tu leur donner du monsieur à présent ?» interrompit Madame Justine, bien qu'intérieurement satisfaite de cette marque de déférence. « Des garçons à peine plus âgés que toi ?»«
Que moi ? Je vais sur mes 18 ans et ils ont tous passé les 20. Chez nous, en France, ils seraient soldats. »«
Ils le sont aussi, ma belle. » et que l'uniforme leur va comme un gant. Jacques veut faire son école d'officier. Il sera lieutenant un de ces 4 matins. Quant à Juste, comme il étudie les mathématiques, ils le mettront dans le génie.
Quand est-ce que nous aurons le plaisir de le voir ? Demanda Joyeuse en se détournant pour relever ses tresses devant le miroir.
Aura-t-il de longues vacances cette année ?
Nous l'attendons la semaine prochaine. Il aura besoin de se refaire, le pauvre Bouëbe, après ses examens. Tu le connais, c'est l'ambition qui le soutient. Il fera de grandes choses s'il ne se tue de travail auparavant.
Ah, ma Cécile, j'en ai des soucis et des tracas. Et voilà ma névralgie qui revient.
N'y pensez pas, dit Cécile avec un sourire assez malicieux. Pensez plutôt au retour de Monsieur Juste. « Vous verrez qu'il se refera vite, il reprendra de l'appétit et du teint comme l'année dernière et il sera le meilleur batteur de toute la troupe. »«
Allons préparer le souper de nos hommes, » fit la fermière avec un soupir.
Une demi-heure après, toute la maisonnée était réunie dans la vaste cuisine, pleine d'un fumet appétissant qui s'échappait de la soupière aux flancs arrondis.
« C'est en votre honneur, père Félix, qu'on a fait un ballon de soupe au fromage, » dit Madame Justine. « Nous connaissons vos petits dadas. »
« Vous n'êtes pas longue à découvrir les faibles du monde, » repartit le vieux journalier, « mais, au moins, vous en usez charitablement. »«
Oh, l'excellente soupe ! Cécile a votre recette, Madame Justine. Tous les samedis, elle me régale. »
« Je voudrais bien goûter de vos fricots, joyeuse, » dit Jacques, le second des fils Renaud.
Les trois garçons étaient là, assis par rang d'âge sur ce banc, où on les juchait autrefois tout petits, à peine échappés aux genoux de leur mère, leurs courtes jambes se balançant dans le vide. Tous trois ressemblaient à leur père. Ils tenaient de lui des traits accusés, un visage maigre, une charpente solide et des habitudes assez silencieuses. Cependant, la présence de Joyeuse avait le pouvoir de leur délier la langue. Ils l'avaient connue toute petite et les souvenirs d'enfance établissaient entre eux une camaraderie fraternelle. La servante plaçait en ce moment sur la table une grande écuelle de grès rouge, toute pleine de pommes de terre qui riaient, suivant le mot des paysans, c'est-à-dire que la peau fine et blonde avait éclaté en maintes endroits, laissant apercevoir une pulpe blanche et farineuse à souhait.
« Qui veut deviner une énigme ?» s'écria Victor. « Une toute neuve que je viens de fabriquer. Quelle est la ressemblance entre Joyeuse et ses pommes de terre ?»«
Je n'aime pas du tout vos énigmes, dit-elle en secouant la tête.
Ah, ne vous fâchez pas, joyeuse. Si vous ne riez pas, l'énigme ne vaut plus rien.
Bon, j'y suis, interrompit Isaac Renaud. Ces pommes de terre ressemblent à la fillette parce qu'elles sont blondes et qu'elles rient.
Vous y êtes, père.
Elle n'est pas fameuse, ton énigme, dit Jacques tout en pelant soigneusement, avec la pointe de son couteau, un des tubercules en question. Elle pourrait convenir à 50 autres filles. Je vais t'en...
Mais une exclamation de surprise lui échappa. Il laissa tomber son couteau et resta bouche béante, les yeux fixés vers le fond de la cuisine. La porte venait de s'entrebâiller doucement, comme pour permettre à quelques regards curieux de se glisser par l'étroite ouverture, mais se referma sans bruit, aussitôt que les yeux de Jacques se portèrent de ce côté. Le jeune homme courut à la porte, l'ouvrit toute grande, ne vit personne. Il traversa le corridor, alla jusqu'au seuil de la cour, personne.
« C'est bien singulier, dit-il en rentrant. Vous n'avez rien vu, rien entendu, vous autres ?»
On n'avait pas compris pourquoi il quittait si brusquement la table. L'incident parut étrange et bouleversa la fermière qui crut y découvrir un présage.
« Signe de mort » murmura-t-elle en se couvrant la figure de son tablier. « Que Dieu nous protège ! Un malheur est arrivé à Juste !»
« Faut voir de quoi il retourne tout de même, » dit le père Félix en se levant. « Donnez-moi donc une lanterne. Si c'est un rôdeur, nous le dénicherons bien. »
Tandis qu'il s'éloignait avec le fermier pour faire la ronde des étables et des remises, Cécile cherchait à rassurer la mère tremblante.
« Si c'est un signe, il est bon, madame Renaud. Cela veut dire que votre fils ouvrira lui-même votre porte un de ces jours et viendra vous surprendre. » Les malheurs arrivent toujours assez tôt. Le bon Dieu ne voudrait pas nous tourmenter à l'avance par des présages.
Tu es bien du même bois que ton grand-père, dit madame Renaud avec un accent de reproche. Toujours prendre les choses du bon côté. Quand je lisais ce matin encore, dans ma nourriture de l'âme, que la vie est pleine de tribulations.
Cécile ne répondit rien. Elle n'était pas grande théologienne et se contentait de sentir instinctivement que la sérénité, la joie, sont aussi des vertus et des plus chrétiennes. Les deux hommes revinrent de leur tournée, ne rapportant aucun éclaircissement. Ils avaient trouvé les abords de la maison parfaitement silencieux et déserts. La neige de la cour avait été piétinée et foulée tout le jour, de sorte qu'il était impossible de rien reconnaître dans cette multitude d'empreintes entrecroisées.
C'est quelque gamin du voisinage qui, en passant, nous aura fait une niche, dit le fermier. N'en parlons plus. Il détestait les commentaires inutiles et les longs rabâchages. Personne ne semblait pressé de se retirer pour dormir. Le mystérieux incident avait laissé dans l'esprit de chacun comme une vague inquiétude et l'on était bien aise de rester ensemble le plus longtemps possible. Isaac Renaud se mit à parler des dernières foires et du prix des veaux, tandis que sa femme racontait à Cécile les méfaits de la dernière servante qu'il avait fallu renvoyer au plus vite pour sauver la vaisselle d'une destruction complète. Dans les intervalles de silence, on entendait parfois le beuglement d'une vache ou les coups de pied sonores du cheval à l'écurie.
« Il faut pourtant penser à se réduire, » dit en se levant l'aîné des trois frères, celui qui habitait la petite ferme voisine. « Le bouebe que j'ai laissé à l'auto dort comme une souche. On pourrait jeter la maison par les fenêtres sans l'éveiller. Allons, bonsoir, mais écoutez donc votre vaillant, » poursuivit-il en s'approchant de la porte. « On dirait qu'il fait un mauvais rêve. »
Le chien s'était mis à aboyer, paresseusement d'abord, et comme par acquis de conscience, pour annoncer quelques passants encore éloignés, puis il s'était précipité hors de sa niche, et des sons étranglés témoignaient qu'il tirait très fort sur sa chaîne.
« Paix donc !» dit une voix forte dans la cour.
« C'est juste !» s'écria la fermière.
Une exclamation joyeuse lui répondit, et l'instant d'après, la grande cuisine, tout à l'heure si calme, était pleine d'un bruit confus de rires, de questions et de baisers. Le nouveau venu était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, avec les traits réguliers de sa mère, possédait l'expression énergique de son père. Il était beau, mais son visage sérieux, pâli par l'étude, imposait plutôt qu'il ne charmait. Son front large et carré, ses yeux gris, pénétrants et froids, sa bouche grave, semblait indiquer une raison plus vieille que ses années. Cependant, la joie du retour mettait une flamme dans ses yeux et, sur ses lèvres, un sourire qu'on devinait y être rare.
« Tu as encore grandi, ma parole !» disait le fermier qui toisait son fils avec une satisfaction évidente. « Tu mets tout en longueur, toi !»«
Il faut aussi songer à la largeur !» interrompit Madame Justine avec impétuosité. « Je m'étonne qu'on t'ait pris comme soldat. Et tu parles, bon Dieu ! Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on boit dans tes Allemagnes ? Et pourquoi arrives-tu si tard ? Es-tu bien fatigué ? Où est ta malle ? Gageons que tu l'auras laissée en route avec toutes tes chemises neuves. »
« Rassurez-vous, maman, » répondit le jeune homme de sa voix grave et posée. « Tiens, quel plaisir de pouvoir recommencer à dire « maman ». C'est une douce habitude à reprendre. Vous allez tous bien ? Pas trop de névralgie, maman ?»«
Plus du tout depuis que tu es là. »
Et elle ôta vivement le fameux capuchon que Juste ne pouvait souffrir et qu'elle regrettait de lui avoir laissé seulement entrevoir.
« Je suis en route depuis hier, » reprit le jeune homme. « Ma malle est restée à la Brévine chez le buraliste. Si tu me prêtes le cheval demain matin, Jacques, j'irai la chercher. C'est toujours toi qui as le gouvernement de l'écurie ?»«
Ah, bonsoir, père Félix. Je ne vous avais pas encore aperçu, là, dans l'ombre. »
« La santé est toujours florissante, c'est la bonne humeur qui vous conserve. »«
Et la petite Cécile, où se cache-t-elle ?»
Sans lever les yeux, Cécile s'avança et fit une révérence effarouchée. Elle eût voulu jeter sur sa tête son tablier bleu pour cacher la rougeur qui s'étendait jusqu'au bout de ses petites oreilles.
Qu'avait-elle donc à tant rougir ? Était-ce l'air citadin de M. Juste qui l'intimidait si fort ? Était-ce son cordon d'étudiant ? Était-ce son air grave, ses yeux, sévères même quand la bouche souriait, ou bien tout cela à la fois ? Elle n'en savait rien, mais elle se serrait contre son grand-père, plus effrayée, plus interdite qu'elle ne l'avait été de sa vie.
« Faut l'excuser, » dit le père Félix en souriant. « Ces fillettes de campagne, voyez-vous, monsieur Juste, c'est sauvage comme des petites chèvres, mais ça s'apprivoise vite. »
Le jeune homme inclina la tête d'un air distrait. Peu lui importait, en vérité, que Cécile se montrât farouche ou non.
Madame Justine allait et venait, affairée, cherchant dans l'armoire le verre de Juste, l'assiette de Juste, le couvert de Juste et la belle nappe damassée qui ne voyait le jour qu'aux vacances.
« Assieds-toi donc, voyageur, lui dit son père. Tu dois être fatigué. »
« Tiens, voici du petit salé de ménage, comme ta mère sait le préparer. Voici de la salade aux pommes de terre. Ce n'est pas devenu trop solide pour toi, cette nourriture de paysan ?»«
Est-ce que j'ai l'air d'un plumitif, voyons ?» dit brusquement le jeune homme en se plaçant devant Isaac Renaud.
« Est-ce que je ne suis plus de la famille ? J'ai les mains blanches pour le moment, mais quand il le faudra, je saurai bien tenir la pioche et travailler comme un manœuvre. » Si je vais à Panama, ou en Égypte, ou en Perse, partout où l'on demande des lignes ferrées, je paierai de ma personne pour donner l'exemple et je montrerai ce que peuvent être la tête d'un ingénieur et les bras d'un paysan.
« Très bien, mon fils, » dit Isaac Renaud en lui mettant la main sur l'épaule. « Mais tu montreras aussi, j'espère, ce que peut un cœur droit formé dans la crainte de Dieu. Les reins solides et l'esprit clair, c'est beaucoup, ce n'est pas assez. »
Le jeune homme resta silencieux. Sa mère vint s'asseoir à côté de lui et lui prit la main.
« Veux-tu donc t'en aller si loin ? » dit-elle à demi-voix. « Qui t'a mis ces idées en tête ? Il y aura de la besogne pour toi dans notre pays. »
Il sourit un peu dédaigneusement.
Ici, quelques malheureux bouts de voie ferrée, quelques viaducs longs d'une aune, c'est au loin qu'il faut chercher de grandes entreprises. Je voudrais qu'on me donnât à trouer l'Himalaya.
Si la neige continue à tomber, tu auras à nous faire un tunnel de la porte à la cuve, monsieur le grand ingénieur, dit Jacques en riant.
À propos de porte, fit vivement madame Justine, ce n'est pas toi, Juste, qui as voulu nous faire une niche il y a une demi-heure ?
quelqu'un a entr'ouvert la porte de la cuisine, puis s'est, comme qui dirait, évaporé, car personne n'a pu mettre la main sur l'indiscret et n'a seulement vu son ombre. Un gamin, sans doute, qui aura voulu se donner le plaisir de vous faire courir. C'est l'idée de ton père, mais moi, je crains qu'il n'y ait du micmac là-dessous. Bien sûr, je ne fermerai pas l'œil de toute la nuit. » Madame Justine Renaud dormit peu, en effet, sous les courtines à franges rouges de son grand lit. Mais ce fut la joie du retour de Juste qui la tint éveillée, bien plus que l'inexplicable incident. Elle songeait à une douzaine de chemises neuves auxquelles il faudrait mettre Cécile dès le lendemain, puis à certains jambons fumés à point qui figureraient en tranches blanches et roses sur la table du dîner. La petite chambre de Juste n'était pas prête à le recevoir. On aurait à frotter, à écurer, à suspendre des rideaux blancs, à épousseter les rayons sur lesquels il mettrait ses livres. Gageons qu'il en aura sa malle pleine de ces terribles livres qui le font pâlir. Est-il savant, ce garçon? Est-il savant, bon Dieu? De l'argent et de la gloire, il en aura tant qu'il voudra, sans courir à l'autre bout du monde chez les païens. En Perse, en Égypte, pour y attraper quelque malchance et revenir au pays tirant de l'aile et traînant le pied, comme ce pigeon dont je récitais l'histoire quand j'étais petite, ce n'est pas pour l'offrir au moricaud que nous l'avons fait si bien instruire notre Juste et qu'il a pris l'air si distingué. Comme ses habits lui vont bien, il faudra savoir s'il préfère les faux cols droits aux cols rabattus. Peut-être que Cécile a un nouveau patron. » Vers le matin, les idées de Madame Justine devinrent confuses. Les faux cols, les voies ferrées, les jambons, les viaducs, les Perses et les Égyptiens dansèrent d'abord dans sa tête une étonnante sarabande, puis s'évanouirent tout doucement dans la brume d'un profond sommeil. Cécile, levée la première, trottinait sans bruit dans la cuisine. Elle n'avait qu'une pensée, qu'une crainte, c'était que M. Juste n'y entrât pendant qu'elle était encore seule. 6h30 venait de sonner. Tout dormait encore dans la maison, chose inouïe, car Madame Justine était un terrible réveil matin. « C'est pour avoir veillé si tard hier, » pensait joyeuse en allant et venant à la clarté de sa petite lampe, car il faisait encore aussi noir que dans un four. « Ce sera comme l'année dernière, où M. Juste racontait tous les soirs des choses si intéressantes qu'on en oubliait le dormir, le manger et le boire, et même le fumer, comme disait grand-père. « Bon, le voici qui descend. Quel soulagement, grand ciel ! À présent, M. Juste, s'il entre, trouvera à qui parler. » Le père Félix parut sur le seuil. « Bonjour, grand-père, » dit Cécile en lui tendant sa joue ronde pour le baiser du matin. « Vous avez bien dormi ?»« pas mal, merci, petite. Le rhumatisme me travaille un peu dans les genoux, mais à mon âge, il faut bien que quelque chose cloche. Je vais me mettre à traire. Déjà 6h30, les pauvres bêtes doivent commencer à n'y rien comprendre. Ah, voici Lucien qui a été plus matinal que nous. » C'était l'aîné des fils Renaud qui arrivait, portant sur son dos, dans une bouille de fer blanc, le lait de ses 4 vaches. On faisait fruitière à la grande ferme, c'est-à-dire qu'on y fabriquait le fromage et le beurre, et la plupart des étables du voisinage vendaient leur lait à Isaac Renaud. Bientôt, le maître parut, s'excusant d'avoir dormi si tard. Madame Justine le suivit de près, d'assez mauvaise humeur, bousculant chacun sous prétexte de regagner le temps perdu. « Allons, allons, qu'on se dépêche. Il faut pourtant déjeuner avant midi. Ce lait ne veut pas monter, on dirait qu'il est gelé, ma parole. Mais aussi, quelle misérable flamme! Est-ce que tu ne sais plus allumer le feu, Cécile? Pelle ces pommes de terre, vite, et filez votre nœud, tous ces hommes, vous encombrez ma cuisine. » Puis, comme il arrive toujours, le lait, qui s'obstine à ne pas bouillir tant qu'on le surveille, monta à grand bruit aussitôt que Madame Justine eut le dos tourné, et toute la hâte de Cécile ne réussit qu'à en sauver la moitié. Pour le coup, la fermière s'assit en laissant tomber ses bras. « Retournons nous coucher, » dit-elle d'un air tragique. « La journée s'annonce mal. Quelqu'un se cassera bras et jambes avant ce soir. Et pour nous achever, voici Jérôme qui s'amène. » Ben Vauvaigne, dit une voix traînante dans le corridor.
Bonjour, répondit laconiquement la fermière. Le voisin Jérôme était un petit vieillard maigre et cassé qui parlait sans cesse et toujours geignait. Il déposa sa bouille dans un coin, puis se prit les côtes à deux mains et resta un grand moment courbé en deux, comme s'il ne pouvait se reprendre. Un bizarre accès de toux rentrait, le secouait, sans qu'il fît entendre aucun son. Cécile crut qu'il suffoquerait. Elle se hâta de lui avancer un escabeau et interrogea des yeux sa maîtresse pour savoir s'il n'était pas urgent de lui dénouer sa cravate ou de lui administrer des gouttes anodines. Mais la fermière lui répondit par un regard courroucé et haussa les épaules.
« Ce Jérôme, c'est une poix » murmura-t-elle. « Maintenant que le voilà assis, nous en avons pour une belle lurette. »«
Hum, hum !» fit le voisin, quand le jeu de ses organes respiratoires se fut un peu rétabli. « La bouille est trop pesante pour moi, à présent. Ce que c'est que de nous, tout de même, dans mon jeune temps, je l'aurais porté à bras tendus. À bras tendus » répéta-t-il en hochant la tête. « Vous ne le croyez pas, madame Renaud ?»«
Si, si, je le crois, » se hâta-t-elle de répondre.
« Eh bien, c'est comme je vous le dis, à bras tendus. » Vous pouvez le demander à ma femme qui m'a connue dans mon jeune temps. Mais je l'ai portée aujourd'hui pour la dernière fois, cette bouille qui m'a tant meurtri le dos. Je voulais vous l'annoncer, madame Renaud, comme ça se doit entre bons voisins qui n'ont jamais eu un mot ensemble.
Comment donc ? Est-ce que vous allez nous planter là et envoyer votre lait à la fruitière du village sans nous avertir ?
Mais non, j'ai seulement pris un domestique et c'est lui qui viendra d'or en avant, matin et soir.
Oh, si ce n'est que cela, je n'en tournerai pas la main, fit madame Justine avec humeur.
Là oui, on a engagé un individu. C'est l'occasion qui a fait le larron. Je n'y pensais seulement pas quand l'homme s'est présenté. C'était un pauvre ouvrier de campagne sans ouvrage qu'il me dit. Est-ce qu'on pourrait l'occuper ? Rien que pour la nourriture et la couche, il travaillerait de bon cœur. Pardi, que je me pense, on peut bien se payer un domestique quand ça ne coûte rien. Et voilà, nous avons tapé l'affaire. C'est un drôle de particulier, madame Renaud. Vous qui avez bon œil, vous m'en direz votre idée quand vous l'aurez vu. Il ne desserre quasi jamais les dents. Pas moyen de le faire causer.
Ça doit vous paraître drôle, en effet, répliqua sèchement madame Justine. « Allons, joyeuse, va t'enquérir nos hommes, le déjeuner est prêt. »
Un domestique qui ne parle pas, ça doit lui aller comme un gant au vieux Jérôme, murmura-t-elle quand le voisin se fut éloigné.
« Nous verrons cette merveille. Si je n'aime pas les bavards, je n'ai guère de goût non plus pour les sournois. »
Juste n'était pas encore descendu.
« Laissons-le dormir, » dit sa mère. « Il a tant pris sur son sommeil avant ses examens, le pauvre garçon, qu'il n'aura pas trop des vacances pour rattraper son arriéré. Fais ton fromage ce matin, mon mari. »«
Non, les vaches ont peu donné. Il faut attendre ce soir. »«
Très bien. Puisque la cuisine sera libre, nous pétrirons quelques gâteaux et nous les cuirons dans le petit four. Juste, elle me tend la sèche aux pommes de terre. » « Dépêchons-nous, il en mangera une toute chaude à 10 heures. »«
Qu'avez-vous donc ?» demanda Joyeuse à voix basse en s'approchant de son grand-père.
« Vous semblez tout capot. Je vous regardais pendant le déjeuner, vous ne mangiez pas. »«
Ce bonne petite, » dit-il en mettant sa large main calleuse sur la tête blonde de Cécile. « Comme elle se tracasse pour un vieux bonhomme !»
« Vois-tu, mon enfant, il n'y a pas de remède à la maladie d'avoir 70 ans. Les rouages n'ont plus d'huile, ça grince, ça rechigne à faire sa besogne. Le souffle va bien encore, et c'est une bénédiction, comme je me le disais en voyant ce vieux Jérôme tout poussif. Mais les articulations s'enraidissent au point qu'il me semble parfois être fait de 4 bâtons. Pourquoi se plaindre ? Tout doucement, on fait place aux jeunes, c'est le train du monde. » « Va bien, va bien. »«
Grand-père, » dit Joyeuse d'un ton de reproche, « ne parlez pas ainsi.
vous êtes encore plus vert et plus solide que bien des hommes de 60 ans. Comme M. Juste le disait encore hier, la bonne humeur vous conserve. Est-ce que votre rhumatisme a empiré ces jours? Voulez-vous que nous retournions chez nous?
On n'y songe pas. Quoique ça, les Renaud n'y perdraient que le plaisir de te voir, car pour moi, je ne suis plus qu'un batteur bien conséquent. Il faut te l'avouer, mamie, ton grand-père est démonétisé.
Qu'avez-vous donc à conspirer dans ce coin, vous deux? S'écria la terrible Madame Justine. Est-ce que vous vendez le pays? Viens ça, joyeuse, et lave cette vaisselle au plus vite pour débarrasser la table.
Ne lui dis rien, murmura le père Félix à voix basse. Elle est un peu contrariée ce matin. Il ne faut pas lui donner d'autres tracas.
Cécile ne pouvait se défendre d'une certaine inquiétude. Quoique la santé de son grand-père fût généralement bonne, il avait souffert l'hiver précédent d'un rhumatisme tenace dont l'été n'avait pas suffi à le débarrasser complètement. Elle se promit de redoubler de soins et de vigilance et aussi de confier son souci à Madame Justine aussitôt que l'horizon se serait éclairci. Le moment n'était pas propice car le néfaste capuchon noir, symbole de névralgie et de tempête, avait reparu et présidait sur la tête de la fermière aux destinées du jour. À midi, la jeune fille, qui suivait d'un œil anxieux son grand-père, crut voir qu'il dînait avec appétit. Elle se rassura, mais ne songea qu'à lui tout le reste du jour et en oublia la frayeur que lui inspirait M. Juste. Elle lui tailla ses chemises neuves avec une parfaite indifférence, comme si elle eût travaillé pour un mortel tout ordinaire. D'ailleurs, elle l'aperçut à peine. Il passa la journée à déballer ses livres, puis à refaire connaissance avec les moindres recoins de l'étable et de la grange. Le soir vint. Joyeuse était dans la cuisine, préparant le souper. Les hommes étaient tous à l'étable, occupés à traire, et Madame Justine venait de monter au premier étage pour inspecter les arrangements de son fils et leur donner son approbation s'il y avait lieu. C'était l'heure où les voisins arrivaient avec leur bouille. Comme Cécile, debout devant le foyer et tout à son coup de feu, s'apprêtait à faire sauter une large omelette, elle entendit dans le corridor un pas hésitant et le frôlement d'une main qui cherchait le loquet.
« Ah, c'est le nouveau domestique à Jérôme, » pensa-t-elle. « Il ne connaît pas encore les êtres. »
Un homme de haute taille entra, courbé sous sa charge.
« Par ici, » dit Joyeuse, « voilà les Célions à vider le lait. »
Elle tenait toujours la queue de la poêle et la clarté du feu l'enveloppait tout entière. Une flamme dansait dans ses yeux bruns, autour de sa tête mignonne, sur ses cheveux ébouriffés. Sa taille, encore un peu frêle, serrée dans un corsage bleu, les grands plis de son tablier blanc, son petit pied chaussé d'un bas rouge et sortant à demi d'une pantoufle trop large, tout cet ensemble de couleurs gaies et de lignes gracieuses se détachait en vigueur sur le fond noir de la grande cuisine. Au lieu d'avancer, le nouveau venu restait dans l'ombre et Cécile ne distinguait de son visage que deux yeux sombres et ardents. Il semblait approcher de la quarantaine. Une barbe noire en broussailles couvrait sa bouche et son menton. Ses vêtements avaient quelque chose de pittoresque, d'étranger. Une ceinture de laine écarlate entourait ses reins et un foulard de même couleur, noué lâchement autour de son cou, laissait flotter ses bouts jusque sur la chemise.
C'est un Italien, pensa Joyeuse, non sans quelque inquiétude, car on lui avait raconté mille histoires sinistres sur les Italiens qui travaillaient dans la vallée voisine à la construction d'une ligne ferrée et qui étaient représentés comme ayant tous dans leurs manches un couteau long de 2 pieds. Au moment où elle souhaitait de tout son cœur que Madame Justine descendît et vint rompre ce tête-à-tête peu rassurant, l'homme fit un pas. « Comment vous appelez-vous » dit-il d'une voix basse et profonde qui fit tressaillir la jeune fille.
« Cécile Vadien !»«
Bon, il parle, je l'aime mieux ainsi, » pensa-t-elle. « Vous êtes le nouveau domestique du vieux Jérôme, n'est-ce pas ? » poursuivit-elle.
Et toi, es-tu donc servante ici ? Demanda-t-il brusquement.
Elle se redressa, choquée de ce ton familier.
Je ne suis pas servante et je n'ai pas l'habitude d'être tutoyée par le premier venu.
Pardon, murmura-t-il, j'oubliais. Ce n'est pas l'usage dans ce pays. Je viens de loin, voyez-vous. Il faut m'excuser. En cet instant, Juste entra dans la cuisine et Cécile poussa un soupir de soulagement car son interlocuteur lui paraissait un peu singulier. « Bonsoir, dit Juste. Faut-il vous aider à décharger votre bouille? Vous avez l'air tout neuf au métier. »«
Merci, on fera seul tout de même. »«
Comme vous voudrez. » L'homme se pencha et sans même ôter de ses épaules la boîte à lait, il en versa le contenu dans le seillon sans en répandre une seule goutte. Puis il enfonça sur ses yeux son grand chapeau noir à large bord et sortit. « Drôle de type, fit Juste. À la place du vieux Jérôme, je ne dormirai que d'un œil. Où a-t-il pêché ce particulier ?»«
C'est la chance qu'il le lui a envoyé hier au soir. L'homme est un pauvre ouvrier de campagne, à ce qu'il a dit. »
Vraiment, il a dans la voix et dans l'accent quelque chose de guttural qui fait songer à l'espagnol. « Comment s'appelle-t-il »«
Je n'en sais rien. Il m'a demandé mon nom sans me dire le sien. »
À la campagne, on est naturellement curieux. Les événements sont si rares que le moindre incident a son prix. Un étranger qui passe, l'achat d'une vache par le voisin, une fournée de pain mal levée chez la voisine, un feu de canal, un baptême, défraient la conversation à trois lieues à la ronde. On juge si le nouveau domestique et ses faits et gestes furent passés au crible. Sans l'avoir seulement entrevu, Madame Justine lui décerna un surnom, l'homme noir, et déclara que c'était, à n'en pas douter, un brigand d'Espagne exilé pour ses crimes.
« Jolie emplette que le vieux Jérôme a faite là, mais il n'a pas un grain de judiciaire, et son bureau plein de valeurs, car il ne met rien à la caisse d'épargne, il garde tout chez lui, comme dans le vieux temps. Un beau matin, il se réveillera mort, comme disait le Sagnard, et le magot aura pris les jambes.
« Justine, fit son mari d'un ton de reproche, peut-on parler ainsi ?» La fermière daigna convenir qu'elle allait un peu loin dans ses suppositions pessimistes, mais enfin, cet individu lui semblait louche, et quand chacun se fut retiré pour la nuit, elle accompagna Cécile dans sa petite chambre à coucher. « Prends garde à toi, lui dit-elle en hochant la tête avec solennité. « Ces étrangers sont parfois les pires enjôleurs. Ne rougis pas ainsi, ma petite. Je sais bien que tu es sage, mais tu avoues toi-même qu'il t'a beaucoup regardé ce soir. Demain, s'il te parle, tourne-lui le dos. C'est ainsi que j'ai traité dans mon jeune temps beaucoup de garçons. Sais-tu qu'on m'appelait la dragonne et que j'en étais fière ? Isaac Renaud ne s'en est jamais plaint. Quand viendra le bon parti qu'il te faut, alors je te permettrai de dire oui tout de suite. » Mais point des rôdeurs, des ambulants, des ouvriers de campagne et de toute cette clique voyageuse. Cécile rougit encore, mais de fierté cette fois.
« Mon grand-père n'est qu'un ouvrier de campagne, dit-elle. N'ayez crainte, maîtresse, je ne me marierai ni trop bas ni trop haut et je vous demanderai conseil, je vous le promets.
À la bonne heure, dors maintenant comme une fillette raisonnable. » La neige tomba toute la nuit. Quand Joyeuse s'éveilla le lendemain matin, une clarté vague et blanche glissait par la petite fenêtre dont on ne fermait jamais les rideaux, car dans cette solitude, au pied des bois, on n'avait pas de regard curieux à redouter. Quelques étoiles brillaient encore au ciel et l'arc décroissant de la lune s'y évanouissait comme une vapeur. La neige montait presque jusqu'à l'appui de la fenêtre, tout disparaissait sous les molles ondulations de cet épais manteau. « L'hiver s'annonce rude, » pensa Joyeuse en frissonnant. « Heureux ceux qui ont une provision de bonne tourbe dans le bûcher. Il faut que grand-père mette ses genouillères de flanelle aujourd'hui. » Cécile, on le voit, n'avait pas l'imagination poétique. Au lieu de rêver à la solennelle beauté de ce grand ciel pâle et de la vallée toute blanche, elle songeait aux pauvres, à son grand-père, à ceux qui souffriraient du froid précoce. Elle venait de décider en elle-même qu'aussitôt de retour au nid du fol, elle enverrait une douzaine de grosses bûches à la veuve du tailleur lorsqu'on frappa doucement à la porte.
« Êtes-vous debout, Cécile ?» demanda la voix de Jacques.
« Qu'y a-t-il » s'écria-t-elle. « Habillez-vous et montez. Le père Félix est souffrant. Tout à l'heure, je l'ai entendu gémir et je suis entrée. Il dit avoir un tour de rein. »
C'est comme l'hiver dernier, murmura-t-elle en tordant à la hâte ses lourdes tresses et en agrafant sa robe à l'aventure. Pauvre grand-père, va-t-il souffrir ?
Le père Félix était étendu sur son lit où la sciatique allait le clouer pour longtemps. Son visage contracté exprimait une vive souffrance et ses lèvres se serraient pour retenir la plainte. Il était pénible de voir ses membres encore si vigoureux, raidis et comme paralysés sous l'étreinte du mal. Cécile s'approcha doucement et sans même effleurer les draps du lit, car elle savait que le moindre attouchement augmentait la douleur, elle mit un baiser sur la joue de son grand-père.
« Prenez courage, dit-elle, cela aussi passera. »
Elle avait appris du vieillard ces mots que tant de bouches ont répétés après l'Ecclésiaste et qui sont le résumé de l'expérience du sage.
« Tu as raison, dit-il péniblement, cela aussi passera. Je voudrais pourtant être chez moi plutôt que dans une maison étrangère et ne déranger personne. Mais de notre côté, tu seras moins seule, petite, on t'aidera. Ce monde est plein de compensations. » ajouta-t-il avec son vieux sourire qui fit venir des larmes aux yeux de Joyeuse.
Madame Renaud ne tarda pas à monter chez le malade. Pour conseiller, pour secourir et pour soigner, sa main ferme, son esprit net et pratique étaient inappréciables.
« N'ayez nul souci, père Félix, dit-elle en s'approchant. Vous serez comme chez vous et ne manquerez pas de garde-malade. Le docteur viendra ce matin. Victor est déjà parti pour le quérir. » « Cécile va faire un bon feu dans le poêle et vous tiendra ensuite compagnie. »«
Tenez, madame Renaud, dit le vieillard, je voudrais de bon cœur que le mal m'empoignât deux fois plus fort et que j'eusse écouté Cécile qui, me voyant toute chose hier, proposait de nous en retourner à la maison. Je vais être une vraie calamité chez vous. »«
Malade ou bien portant, les amis sont les amis, répondit sentencieusement la fermière. On est au monde pour s'entraider, n'est-ce pas ? J'ai l'humeur revêche, chacun le sait, moi la première. Pourtant, j'aime à donner un coup de main à l'occasion. »
Comme Cécile descendait pour prendre des fagots afin de chauffer le poêle, elle faillit se heurter au pied de l'escalier en casse-cou contre quelqu'un qui se tenait là dans l'ombre. Elle poussa une exclamation à laquelle fit écho Madame Justine qui arrivait sur ses talons. L'homme s'écarta pour les laisser passer toutes deux.
« Qui est-ce qui vient ici si tôt, compagnon de la Marjolaine ?» dit la fermière en élevant la petite lampe qu'elle tenait à la main. « Tiens, l'homme noir, je reconnais son signalement. »«
Mon signalement ? » fit-il d'un ton farouche. « Qu'est-ce que vous entendez ?»«
C'est une façon de parler, voilà tout. »«
M'est avis qu'il est mal dans les papiers de la police, » se dit-elle.
« Que voulez-vous, s'il vous plaît ?»
Qu'on mesure le lait que j'apporte. J'attends ici depuis 10 minutes. » Il jetait à la dérobée ses regards sur Joyeuse, qui ne levait pas les yeux, mais sentait une crainte vague s'emparer d'elle.
« Faudra-t-il que je rencontre cet homme matin et soir ?» se disait-elle. « Il a quelque chose dans le visage qui me fait peur et m'attire pourtant. »
« Écoutez, dit Madame Renaud, tous nos gens sont occupés. Rendez-moi un service en retournant. » « Entrez chez la vieille Sylvie, première maison à gauche du sentier, et dites-lui qu'elle m'envoie au plus vite sa bouteille d'élixir pour la sciatique. C'est pressant. »«
Vous avez des malades ? » demanda-t-il d'un ton indifférent, comme pour prolonger seulement l'entretien et en regardant toujours Cécile.
« Oui, le grand-père de cette petite. Dites à Sylvie que c'est pour le père Félix. Si nous n'employons que les drogues du docteur, il en a pour 3 semaines. »
Aussitôt l'homme partit.
« Que me disais-tu donc, Cécile ? » s'écria la pétulante fermière. « Ces petites filles n'ont vraiment qu'amourette en tête. Pour peu qu'on les regarde, les voilà qui battent à la campagne et s'imaginent d'avoir trouvé un galant. Cet homme a au moins 40 ans, petite nigaude. Gageons qu'il a femme et enfant à l'autre bout du monde. Je suis bien aise de l'avoir vu, quoique sa figure de charbonnier ne me revienne guère. » Me voilà tranquillisée à ton sujet.
Mais, hasarda Cécile, je ne vous ai jamais dit, Madame Renaud.
Comment tu ne m'as jamais dit ? Pourquoi donc alors est-ce que j'ai passé la moitié de la nuit à m'inquiéter ?
L'argument était sans réplique.
Cécile monta chez son grand-père et y resta toute la matinée, exécutant avec un soin minutieux les prescriptions du docteur qui était venu tôt après le déjeuner. Elle était assise dans l'embrasure de la fenêtre et travaillait aux chemises de M. Juste. Mais ses yeux erraient parfois sur le blanc paysage qui s'étendait à perte de vue devant elle. Les nuages s'étaient dissipés. Le ciel était d'un bleu fin et doux, aussi clair qu'un ciel de printemps. La neige étincelait au soleil, mais à l'ombre, sa blancheur mate avait des teintes sourdes, légèrement azurées, qui indiquaient chaque pli, chaque ondulation, et donnaient de la variété à cette grande étendue déserte. Plus loin, le petit lac aux eaux toujours sombres, enchâssé entre ses berges blanches, brillait comme une plaque d'argent bruni, et les grands sapins se dressaient à l'horizon, plus sévères que jamais sous leur neige, et pareils à un cortège de solennels gentilshommes poudrés à frimas. « Quel beau soleil !» fit le père Félix, quand un gai rayon, glissant à travers les vitres comme une flèche, vint s'étaler sur son lit et caresser sa vieille main ridée. « Joyeuse, dis-moi donc cette jolie chanson que tu as apprise chez les sœurs, et où l'on parle d'un rayon qui vient réjouir la chaumière. » « Mais, grand-père, je n'ai pas le cœur à chanter quand vous êtes malade. Faut-il donc cesser d'aimer le soleil et d'en être reconnaissant quand on est malade? Bien au contraire, n'est-ce pas, puisqu'on en a besoin davantage. Écoute, ma fille, je vais te dire un secret qui te tiendra en joie tout le long de ta vie. Moi qui le connais, je ne l'ai pas toujours bien pratiqué, mais tu feras mieux que ton grand-père. Si tu perds quelque chose, compte aussitôt ce qui te reste. » La santé est bien précieuse. Si elle me quitte, j'ai encore ma petite fille, des amis et le soleil qui vient me faire visite. Allons, chante, mon enfant. » Joyeuse obéit, et comme l'âme sereine de son grand-père était aussi en elle, rien qu'en chantant, elle reprit espoir. L'après-midi étant venu, le malade s'endormit. « Descends, dit Madame Renaud à Cécile, je te remplacerai un moment, et cela te changera les idées. « Tu trouveras assez de besogne à la cuisine, car rien n'est en ordre. Il ne souffre pas trop, le cher vieux, n'est-ce pas? Sauf quand il remue. Allons, je crois qu'il en sera quitte à bon marché cette fois. Et si tu en as le temps, cours donc chez la Sylvie, lui demander à quoi elle songe de ne nous avoir pas encore envoyé son élixir. » Cécile mit donc son capuchon bleu, ses petits sabots, et sortit. Un étroit sentier avait été frayé dans la neige par les laitiers, dont les lourdes semelles avaient laissé des empreintes bien distinctes. De l'une à l'autre, il y avait parfois un grand pas à faire. Les petits pieds de Cécile s'enfonçaient dans les grands trous qu'avaient laissés ses grosses bottes. Elle releva bravement son jupon sur son bras, laissant voir ainsi ses jolis bas écarlates, et se mit à sauter lestement de pas en pas. La bise piquante soulevait ses cheveux frisés, avivait l'éclat de ses joues fraîches, d'où le hâle de l'été n'avait pas complètement disparu. Bataillant ainsi avec les inégalités du sentier et les hardiesses de ce vent taquin qui faisait tourbillonner les plis de son jupon, Joyeuse arriva bientôt chez la Sylvie, reçut la fiole du liquide infaillible et se remit en route. Le vieux Jérôme demeurait tout près. Il avait même au bout du chemin un hangar où l'on serrait, avec des instruments de labour, la provision de tourbe pour l'hiver. Cécile ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil dans cette direction, mais elle détourna bien vite la tête, car l'homme était là, près de la porte, occupé à scier des bûches. Les sourcils froncés, l'air sombre, il semblait plongé dans ses pensées peu riantes, tandis que ses bras vigoureux allaient et venaient et que la scie faisait entendre sa chanson monotone. Cécile passa le plus vite qu'elle put, sans même échanger avec l'homme ce bonjour dont on salue à la campagne tous ceux que l'on rencontre, connus ou inconnus. Mais le cœur lui battit plus fort, bien qu'elle ne fût point poltronne, lorsqu'elle entendit qu'il laissait tomber son outil et s'avançait dans le sentier derrière elle. Résolue pourtant à faire bonne contenance, elle se contenta de presser le pas. « Cécile Vadien !» dit une voix contenue mais impérieuse. « Arrêtez-vous !» Elle n'en fit rien comme on peut le croire. L'homme la rejoignit en quelques enjambées et vint se placer à côté d'elle, enfonçant dans la neige jusqu'à mi-jambe. Pour la première fois, elle vit en pleine lumière cette stature énergique, ce visage profondément labouré, ces yeux noirs qui brillaient d'un éclat un peu sauvage, cette physionomie de lutteur vaincu, à la fois ardente et lassée.
« Que voulez-vous enfin ?» dit Cécile en s'arrêtant court.
Il se pencha vers elle, lui prit les mains et murmura deux mots qu'elle entendit comme en rêve. Elle restait immobile, ne cherchant pas à se dégager. Enfin, elle parut comprendre, se cacha le visage et s'enfuit en courant.